Georgelia Sarfati, vous êtes HDR sciences sociales, enfin, docteur et HDR en sciences sociales à l'Université de Paris Sorbonne 4, diplômée d'études rabbiniques à Jérusalem, au centre Salomon Schetzer. Également, vous êtes fondateur, Georgelia, ou je crois que vous êtes fondateur hein, du centre de l'École française d'analyse et de thérapie existentielle, la logothérapie,
Ça.
qui est donc un centre qui fait vivre la pensée de Viktor Frankl, autre fondateur de la psychanalyse. Une des grandes voies de la psychanalyse et une autre voie de la psychanalyse. Donc, quand on parle de logothérapie, évidemment, on est dans le sens dans le sens des mots, juste précisément. Vous êtes un interlocuteur ô combien pertinent ce soir sur ce sujet. Merci encore une fois de nous rejoindre. Pierre-Éric Morin, vous avez été directeur de l'Institut supérieur de sciences religieuses, des cours publics également, au Collège des Bernardins. Et vous avez quitté cette fonction il y a 2 ans, un an et demi, pour être directeur du service biblique, du service Bible, pardon, Évangile et Vie de la Conférence des évêques de France. Service Bible, Évangile et Vie de la Conférence des évêques de France, qui est donc un service qui propose à tous les diocèses de France et tous les groupes qui s'intéressent à la Bible des ressources. Pour faire simple, ça va ce que j'ai dit?
Merci.
Voilà, merci. Donc vous
Bonsoir.
êtes prêtre de l'Église catholique, docteur en théologie biblique. Voilà. Vous avez fait l'école biblique et archéologique de Jérusalem,
Ah non, ouais.
que vous visiterez, chers auditeurs, en juin, si tout va bien. Voilà, il n'y a pas de raison. Merci, Pierre-Éric Morin. Également, comme autre qualité immense pour nous, vous êtes membre du conseil scientifique de l'IHEMR. Un grand apport pour nous. Merci, Eric. Tariq Abounour, last but not least, bien sûr. Mon cher Tariq, vous êtes chercheur en jurisprudence islamique et en finance, docteur EPHE. Vous travaillez sur la charia. Vous avez monté. Vous êtes le secrétaire général, pardon, et le porte-parole du comité indépendant de la finance islamique en Europe. Donc, ils ont des instances extrêmement importantes dans le droit musulman. Et je m'excuse, mon cher Tariq, j'ai avalé le nom de l'école que vous avez fondée de formation sur
Alors,
Paris.
donc je suis président de l'IESIP, qui est l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, qui est une université privée indépendante pour les études supérieures, donc qui fait entre autres aussi la formation des imams.
C'est ça. Et c'est un institut que vous avez monté il y a 2 ans à peu près, non?
Il y
3 ans?
a, nous fêtons notre 4e année cette année.
4e année. Voilà. Excellent. Vous êtes un intervenant régulier de l'IHEMR. Hein. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on
Tout à fait.
travaille ensemble.
C'est toujours un plaisir.
Voilà. Et vous êtes imam d'Evry sur d'Evry Courcouronnes ou d'Evry tout court?
J'ai changé de mosquée depuis quelques mois. Je suis maintenant à la grande mosquée de Juvisy-Hâtismans.
D'accord, bon, on ira peut-être vous voir là-bas, tiens, cette année.
Au plaisir.
Vu que notre ami Bajrafil a quitté sa fonction d'imana.
Oui, on est en contact.
Voilà.
J'espère que ce n'est pas définitif.
Ouais, j'espère aussi, parce
Voilà,
que il est
on
vraiment.
rediscutera.
C'est un autre sujet. Donc, merci, Tariq.
Voilà.
Donc, ce que je vous avais proposé à tous les trois, hein, c'est de prendre 5 minutes pour expliquer chacun de vos traditions, ce que c'est, enfin, la façon dont les textes sont lus et interprétés, dont on développe et on tire du sens, quelles sont à la fois les libertés et les contraintes sur ces textes. Et puis, dans un second temps un peu plus long, à peu près 15 minutes, eh bien, de justement donner en exemple. Ce qu'on peut dire du texte du sacrifice, alors je l'appelle sacrifice d'Abraham, on peut l'appeler sacrifice non-sacrifice d'Isaac, non-sacrifice d'Ismaël, ligature d'Isaac, suivant les traditions, enfin voilà. Et donc, chers auditeurs, auditrices, vous avez le texte si vous avez besoin, hein, dans le chat, vous pouvez cliquer sur le fichier, il y est. On va fonctionner par ordre chronologique, c'est-à-dire que, Georgelia, tu as l'habituel privilège d'ouvrir le feu.
Merci, merci Xavier de ton invitation réitérée. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes interlocuteurs, bonsoir aux auditeurs. Alors, je vais consacrer quelques minutes, comme nous l'a demandé notre hôte, à expliciter la façon de lire et de faire vivre un texte dans la tradition hébraïque et rabbinique. Il a été dit juste avant dans le préambule qu'il convenait de distinguer entre l'exégèse et l'herméneutique. À la vérité, cette distinction ne se joue pas exactement de cette manière dans la tradition rabbinique parce que l'exégèse est d'emblée présente dans le travail des scribes, dans le travail des copistes et plus tard dans le travail de ceux qui ont mis par écrit la loi orale. En sorte que le lien avec l'herméneutique est un peu inhérent à cette première strate, dans la mesure où toute exégèse comporte une dimension d'interprétation. Il faut ensuite ajouter que la tradition, en hébreu la Massorée, est orientée vers la transmission de ces textes dans une perspective avant tout éducative, et que la finalité didactique est assez ample, puisqu'au fond, l'idéal, si vous voulez, de la tradition rabbinique, c'est que le plus grand nombre des intéressés aient accès à ces textes, et dans le meilleur des cas, connaissent la langue dans laquelle ils sont écrits, ou dans lesquelles ils sont écrits. Bien sûr, si on parle de la Bible hébraïque, c'est surtout l'hébreu dit biblique, l'hébreu ancien. Et si on s'intéresse à d'autres strates plus tardives, alors c'est l'araméen. Bon, je passe sur les contacts de langue qui sont très nombreux. Je vais me centrer ce soir sur la particularité de la Bible hébraïque qui nous réunit, en tout cas en ce qui concerne la tradition juive et chrétienne, à partir du texte de la Bible, je veux dire, puisque de toute façon, le thème d'Abraham et la figure d'Abraham reparaît, bien entendu, dans la tradition coranique. Alors, en ce qui concerne la désignation de la Bible hébraïque, elle est qualifiée non pas d'écriture ni d'écriture sainte, mais de lecture, en hébreu la Mikra. Ça pose d'emblée une différence spécifique, disons, dans la mesure où si on postule l'acte de lecture et la primauté de la lecture, c'est qu'on est dans une relation de réception du texte qui implique d'une certaine manière deux opérations cognitives, d'un côté la compréhension, de l'autre l'interprétation. Il est évident que chez des lecteurs peu instruits, les deux opérations sont enchevêtrées, mais c'est surtout dans la tradition exégétique et herméneutique que ces deux strates sont assez bien différenciées. Disons que l'opération de compréhension, elle est inhérente à l'acte de lecture. L'interprétation suppose un recul critique vis-à-vis du texte et préalablement, dans le meilleur des cas, une connaissance des précédentes strates interprétatives. Donc, il y a une véritable pragmatique de la lecture. La lecture est un acte et qui suppose et qui implique la coopération active du lecteur ou du destinataire. Alors, en tant que lecture, en tant que mikra, la Bible hébraïque est vécu comme le livre d'un peuple, comme le livre d'une collectivité, le peuple d'Israël, de l'Israël historique, avec sa dimension d'universalité qui est pleinement assumée à l'intérieur des premiers chapitres, des premiers versets de la Genèse, où on va d'emblée introduire une problématique qui introduit à la différence qui est faite dans la Bible hébraïque. Vous m'entendez? Une différence liminaire qui est faite entre les lois qui sont des préceptes universels qu'on appelle les lois noachides et les lois spécifiquement destinées, appelées à être observées par Israël. Donc on a d'emblée une sorte de dialectique entre Israël et les nations et qui va être amplifiée dans la tradition talmudique en particulier. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que la Bible hébraïque met en place des catégories de sens, des catégories de signification qui ont une certaine permanence dans la mesure où elles vont constituer un prisme de lecture, non pas seulement du texte, mais du texte en tant que filtre interprétatif de l'histoire objective. Donc il y a une sorte de collusion entre deux historiographies. L'historiographie qui nous est narrée par la Bible elle-même, ce qu'on appelle le narratif biblique, et l'historiographie l'histoire qui continue de se développer et dont nous participons, et qui est aussi un objet dans la mire du texte et du narratif hébraïque. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que dans l'esprit de la tradition rabbinique, la lecture littérale du texte est décommandée, parce que comme le rappelle le philosophe Emmanuel Levinas, dans de nombreux textes, mais en particulier dans les essais qu'il a consacrés au judaïsme à partir de 1965, c'est un texte que vous trouvez très couramment en poche maintenant, et qui s'appelle « Difficile liberté », où il examine les relations du judaïsme avec la culture ambiante et bien d'autres thèmes qui intéressent aussi le judaïsme d'un point de vue interne. Levinas dit que la Bible juive, c'est la Bible avec ses commentaires. Donc de ce point de vue-là, il pose un préalable qui est vraiment un préalable qui va définir un invariant et qui est d'une certaine manière admis par la majorité des intéressés. On a donc une tradition exégétique et herméneutique très ramifiée qui repose sur une différence posée dès l'Antiquité entre ce qu'on appelle d'un côté la loi écrite et de l'autre la loi orale. Alors comme vous le savez sans doute, du fait des vicissitudes historiques, avec la perte de la souveraineté et la destruction de la Judée par Rome au 1er siècle de notre ère, les sages de l'Antiquité ont décidé de mettre par écrit l'essentiel des contenus et des enseignements de la loi orale. Et cela s'est fait très graduellement à travers différents corpus. Vous connaissez, j'imagine, les principaux d'entre eux. On va citer une exégèse collective qui est le Talmud, Talmud aussi bien de Babylone que le Talmud de Jérusalem, l'exégèse allégorique qui est représentée dans les nombreuses collections de Midrash, de Midrashim, qui sont des recueils d'enseignements homilétiques à portée philosophique, théologique, morale, qui se développent depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais aussi de nouveau aujourd'hui un regain d'intérêt pour la tradition midrashique. Mais aussi une troisième branche qui est, disons, l'exégèse et l'herméneutique d'auteur, ce qu'on appelle en hébreu la parchanout, et qui gravite autour de la contribution de grandes figures, de sages et d'intellectuels, qui sont souvent des rabbins, mais pas exclusivement. Alors évidemment, on peut parler en particulier pour ce qui est de l'apport de l'école française, de la contribution de Rashi et de son école. Alors, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le nom de Rashi, qui est un acronyme de Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, et qui était un champenois, et qui était viticulteur dans la région de Troyes au XIe siècle. Et puis, il y a une exégèse mystique et sotériologique qui se condense principalement dans le vaste corpus de la Kabbale, dont vous connaissez sans doute les principales expressions, si je vous parle du Zohar, par exemple, ou du Livre de la Splendeur, mais ce sont aussi des corpus qui vont connaître différentes interprétations jusqu'au XXe siècle, en passant par différentes médiations, provençales, espagnoles, en Asphat, en Haute-Galilée, et puis plus récemment, évidemment, en Israël. Il y a aussi une exégèse de type philosophique, ce qui fait que d'une certaine manière, il y a une unité organique de ces différentes exégèses, mais il y a une très grande latitude d'interprétation qui est évidemment consécutive à ce que j'ai dit au préalable, c'est-à-dire à cette question du rapport au texte comme rapport actif, fondé sur le principe de la lecture. Il y a pour autant lieu de parler d'une exégèse et d'une herméneutique canonique, précisément parce que les différents chapitres de la Bible hébraïque ont été découpés depuis l'époque pré-moderne, disons au retour, au moment de l'exil de Babylone, au 5e siècle avant notre ère et au retour. Cela a donné lieu à une canonisation graduelle qui a été achevée au 1er ou 2e siècle, selon les chercheurs. En tout cas, ce découpage que l'on appelle babylonien sert encore de norme de référence à l'étude hebdomadaire de la Torah, c'est-à-dire des cinq livres, de ce qu'on appelle le Pentateuque. Ces chapitres étant eux-mêmes associés à des extraits des livres prophétiques, et cet ensemble hebdomadaire est étudié en général à minima à trois reprises, avec le point culminant qui est celui du samedi matin, du Shabbat. Il y a donc il n'y a pas de clôture du sens, comme vous l'indiquez. Oui, absolument, je vais m'en tenir à cette limite de temps. En revanche, toute la tradition herméneutique et exégétique est fondée sur le principe de ce qu'on appelle en hébreu le chidouche, c'est-à-dire le renouvellement. Et c'est ce qui fait que les lecteurs apprécient précisément la qualité d'un interprète ou d'une exégèse. C'est précisément son aptitude à renouveler ce qui est déjà acquis en termes d'interprétation. Voilà pour ce qui est de la présentation liminaire relative à ce qui caractérise la façon hébraïque et juive de lire la Bible. Maintenant, je vais aborder aussi concisément que possible le thème que vous m'avez amicalement proposé de traiter pour nos auditeurs, la question du sacrifice d'Isaac ou du non-sacrifice d'Isaac. L'idée, évidemment, dans cette désignation, c'est toujours de chercher à corriger une idée reçue selon laquelle il y aurait eu un sacrifice ou qu'il y avait une intention sacrificielle, ce dont on ne peut pas douter à lire littéralement le texte. En vérité, ce passage du livre de la Genèse porte différents enjeux, non seulement théologiques, mais également moraux, moraux et éthiques au sens fort, et on va voir lesquels en particulier. Et dans l'interprétation canonique, on va déjà conjoindre différents niveaux d'interprétation précisément. À la fois le sens thématique littéral, accessible à une compréhension sémantique immédiate, mais également faire porter des questionnements qui sont de nature à lever des enjeux qui sont véhiculés par la tradition kabbalistique. Et là, j'expliciterai certaines notions qui peuvent vous intéresser. Il faut d'abord rappeler ce qui évalue à cette figure du deuxième des trois grands patriarches, que sont Abraham, Isaac et Jacob, le nom de Yitzhak, précisément. Il y a un épisode du livre de la Genèse, de chapitre 21, verset 5, où Abraham et Sarah s'entendent promettre la naissance d'un fils. Et il nous est dit en Genèse 18, 12 que à cette révélation, Sarah a réagi par un rire. Et donc, Yitzhak, c'est Tzachak, en fait, le verbe qui désigne le fait de rire. Et c'est ce qui explique, dans le récit étiologique, si vous voulez, le fait que ce fils, né tardivement, se soit nommé Yitzhak. Quelle est la situation d'Yitzhak en tant que deuxième des trois patriarches, que sont Abraham, Isaac et Jacob? Eh bien, il est le frère, ou plus exactement le demi-frère d'Ishmaël, que Abraham a eu avec Agar. Et il y a un épisode en Genèse 21-9, au terme duquel Isaac ayant subi les railleries d'Ishmaël, Abraham, sur les instances de Sarah, également jalouse de Agar, va congédier cette dernière avec son fils. Ensuite, il y a tout un épisode très important qui concerne le devenir d'Ishmaël dans la tradition hébraïque, le fait qu'il est doté de nombreuses bénédictions et qu'il sera à l'origine d'un peuple considérable. Alors, il y a un différent ici qu'on retrouve et qui est caractéristique d'une certaine manière de ce qu'on peut appeler la thématique des engendrements dans la Bible hébraïque et qui concerne précisément souvent les couples de frères qui sont souvent des couples antagoniques. On peut penser, bien entendu, au premier de ces tandems, Abel et Caïn, dont on sait que le différent se solde par un meurtre qui est le meurtre primordial, mais cette tension se reconduit de génération en génération entre Abraham et Lot, même si Lot n'est pas directement le frère d'Abraham, mais son neveu et qu'il est qualifié de frère par Abraham. Ensuite, chez les enfants, les fils d'Abraham, donc, que je viens d'évoquer, Isaac et Ishmaël. Ensuite, chez les fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Et de sorte que la problématique qui est posée d'emblée, dont l'épisode Isaac et Ishmaël est une modalité très forte, en posant le problème de l'antagonisme dans le champ de la fraternité, va se dénouer à deux reprises. D'abord, dans l'épisode « La geste de Joseph et ses frères », Joseph étant celui qui est capable de réconcilier les frères, mais très certainement aussi préalablement entre Jacob et Ésaü, et Ismaël et Isaac, qui vont finalement se réconcilier chacun, chaque couple de frères, au moment de la disparition de leur père respectif. Donc ça, c'est un point très intéressant, parce que d'une certaine manière, Isaac, Jacob, Ésaü, Ismaël sont aussi des figures qu'on pourrait qualifier d'archétypes, dans la mesure où, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut suivre à grands pas leur manifestation dans l'histoire réelle, dans l'histoire qui est la nôtre, en considérant finalement, d'après la tradition rabbinique, que la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, qualifie d'une certaine manière le devenir d'Israël. La figure d'Ésaü représente la civilisation occidentale et la figure d'Ishmael représente la dimension de l'humanité musulmane. Alors c'est très intéressant ces catégories de sens parce qu'elles rendent vivant d'une certaine manière le texte avec des enjeux qui l'excèdent et qui excèdent sa propre historicité en quelque sorte. Autre point qu'il est important de signaler, la situation, la vie d'Yitzhak en elle-même n'est pas aussi illustrée que l'est ou le sera celle d'Abraham et celle de Jacob. C'est surtout le personnage qui est au centre de cette fameuse scène de l'Akedat Yitzhak, alors qu'on traduit improprement par sacrifice Isaac, mais en fait, Akedat veut dire ligature en hébreu. On parlera de plus volontiers de la ligature d'Yitzhak. Il y a dans cet épisode, dont vous avez pris connaissance, un caractère paradoxal de l'ordre divin. Alors que Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse, voilà que soudain, il lui demande d'être disposé à sacrifier son propre fils, celui dont précisément procéderait cette descendance nombreuse. Alors, quelle est la signification de cette injonction ? La réponse, si vous voulez, c'est que c'est une des 10 épreuves qu'Abraham aura à passer, à endurer d'une certaine manière. Et ces 10 épreuves nous sont détaillées dans un traité du Talmud qui s'appelle les Maximes des Pères, les Pirkei Avot en hébreu. Et puis, il y a bien entendu non seulement un inventaire de ces épreuves, mais également des typologies qui ne sont pas toujours les mêmes d'un auteur à l'autre. En tout cas, dans le Talmud, on a une certaine typologie qui est considérée comme, disons, canonique pour rendre compte de la nature de ces épreuves. Toujours est-il que la fameuse ligature d'Yitzhak apparaît comme la 10e et dernière de ces épreuves. Alors, que représente-t-elle ? En fait, elle représente une mise à l'épreuve, non pas tant d'Yitzhak lui-même que d'Abraham. Précisément, son sens a été éclairé d'emblée par Rashi et cette perspective a prévalu jusque dans l'herméneutique moderne qui reprend le thème classique. On trouve ça notamment chez un penseur israélien qui est le professeur Yeshayahu Leibovitz dans ses lectures bibliques. Il souligne le fait que cet épisode va caractériser ce qu'il appelle l'attitude liée à la foi des intéressés. Qu'est-ce à dire ? Cela veut dire que Abraham, complètement abasourdi par l'injonction divine, va néanmoins obtempérer. Il l'accepte, il y consent, il obéit au point de s'apprêter à sacrifier son fils, comme lui a demandé l'Éternel. Et comme on le sait, au dernier moment, il y a un acte de substitution et c'est un animal qui est envoyé à la place d'Yitzhak, lequel donc a la vie sauve. Alors, l'enjeu philosophique, si vous voulez, c'est précisément de voir que dans ce moment du texte, non seulement, bien entendu, comme on l'a dit maintes fois, il est question de suspendre l'idée même de sacrifice humain, mais ce n'est pas le plus important, il est surtout question d'interroger la ligne de démarcation entre foi intéressée et foi désintéressée. La foi intéressée, comme l'expression l'indique d'elle-même, serait la foi du fidèle ou du croyant résolu à agir compte tenu du fait que dans son action, il entre pour une grande part une défense de ses propres intérêts. Alors que la foi désintéressée consiste précisément à rester fidèle à la divinité en dépit du fait que les actions que cette divinité requiert de nous puissent entrer en contradiction flagrante avec nos propres intérêts, voire nos intérêts vitaux. Donc c'est ça un enjeu, si vous voulez, qui est très intéressant et qui est parfaitement actuelle d'une certaine manière. J'enseigne pas tellement ce texte que sur des thèmes qui, de manière récurrente, font apparaître, nous font appel à une définition bien comprise de ce qu'est la foi. Et on s'aperçoit que dans bien des cas, une grande majorité de personnes, finalement, campent sur des positions qui sont celles de la foi intéressée. Et tout l'enjeu est de leur faire problématiser ce rapport à la foi et de leur faire entendre qu'il y a un degré plus élevé de la foi qui consiste précisément à outrepasser ses propres enjeux égotistes ou égoïstes. Alors, sur le plan culturel, on sait que l'épisode biblique a eu des conséquences éthiques, disons juridico-morales importantes, puisque aussi bien en terre d'islam qu'en terre chrétienne, cet épisode a inspiré ce qu'on appelle en hébreu le Kiddush Hashem, la sanctification du nom. Dans des situations de persécution et devant parfois les situations de conversion forcée, les rabbins ont déduit du texte de l'épisode du sacrifice d'Isaac le principe du sacrifice de sa propre vie pour ne pas avoir à abjurer. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut mentionner dans ce cadre-là. C'est le fait que de cet épisode, on a déduit cette notion de Kiddush Hashem, qui était notamment très en vigueur, en particulier dans le haut Moyen-Âge occidental, et en particulier le long de la route des croisades dans la région franco-rhénane. L'itinéraire d'Yitzhak lui-même est celui d'un homme qui, contrairement à son père et à son fils, ne va pas quitter la terre d'Israël, pour reprendre l'expression de la Bible, parce que précisément il était destiné à être un korban. En hébreu, on traduit ce mot par sacrifice. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que dans le terme de korban, on a la racine trilitaire Kouf Bet Noun qui indique l'idée de proximité, de s'approcher. Le sacrifice, entre guillemets, c'est ce qui est rapproché de Dieu. Et par un sacrifice, on se rapproche de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas tant Israël qui a été rapproché de Dieu dans le sacrifice qu'Abraham en faisant preuve de foi désintéressée. Voilà l'enjeu de ce texte, si vous voulez. Puisque de toute façon, Yitzhak a eu la vie sauve. Alors, pour ce qui est de l'interprétation canonique, et j'en ai bientôt fini, il faut repartir du verset 1 du chapitre 22 de la Genèse, où il est dit en hébreu « Vayi achar advarim ha'ele ve Elohim nissa et Abraham », qu'on peut traduire par « Il arriva après ces événements que la divinité éprouva Abraham ». Alors là, on va s'interroger effectivement sur le terme nissayon, qui est le substantif du verbe nissa, qu'on traduit par éprouver. Il ne s'agit donc pas d'un sacrifice, mais il s'agit d'une épreuve, nissayon. Alors, deux questions se posent. En quoi Abraham devait-il être éprouvé et en quoi cette épreuve ne concernait pas Isaac, mais bien plutôt son père Abraham? Alors, comme je l'ai dit, c'est la dixième épreuve d'Abraham, et on peut se référer pour ça au chapitre 5, Mishnah 3, des Maximes des Pères, que vous trouvez couramment chez Verdier, chez Colbeau. Enfin, c'est un livre qu'on trouve même en traduction dans les livres de rituel du judaïsme, de rituel quotidien. Rachid, dans son exégèse et son interprétation du XIe siècle, pose déjà qu'il convient de faire un parallèle entre les 10 paroles qui ont donné naissance à la création et les 10 épreuves endurées par Abraham. Et il précise que la notion de Nissayon ne se laisse pas traduire avec les connotations que le mot épreuve a en français. Il s'agit ni d'une peine ni d'une affliction, mais plutôt prend le sens d'une preuve à faire, d'une preuve à apporter. Cette épreuve est une façon de demander une preuve, d'administrer une preuve. Alors, quelle preuve faut-il apporter? L'idée que finalement, pour chaque être humain, l'idée est que la vie qu'il aura menée donnera en quelque sorte raison au Créateur de l'avoir créé. En quelque sorte, on a là toute une métaphysique, si vous voulez, qui part, qui postule que la vie que nous, dont, qui nous a été donnée est un don gratuit. Néanmoins, il faut, au terme de notre vie, avoir mérité cette vie. Il y a en quelque sorte une problématisation de la vie qui va éclore en existence singulière, laquelle sera tout entière accomplie au regard d'un certain nombre de valeurs. Et c'est ça qui est en jeu dans la Kedat Yitzhak, dans la ligature d'Yitzhak, c'est la mise à l'épreuve d'Abraham sur la valeur qui le caractérise en premier lieu. Et ça, la tradition talmudique qui insiste abondamment à partir de la Bible elle-même, Abraham incarne la vertu de charité, en hébreu le chesed. Yitzhak incarne la vertu de la stricte justice, ce qu'on appelle le din. D'ailleurs, on retrouve le même mot en arabe. Quant à Jacob, il incarne la vertu de la vérité morale, en hébreu le emet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'épreuve donc, qui a consisté dans une exigence de faire la preuve concerne en premier chef Abraham, auquel il est posé la question « Es-tu le juste de la charité ?» qui était reconnue par les précédentes épreuves. La charité, entre autres valeurs, bien entendu, ou en relation avec les autres valeurs. Et comme on le sait, au terme de cette épreuve, Dieu lui déclare « Maintenant, je sais que tu es un craignant de Dieu, Yiret Hachem ». On trouve ça en Genèse 22, verset 12. Alors, il faut rappeler qu'en hébreu, le terme qui est employé pour désigner la divinité dans ce passage, c'est Elohim. C'est Elohim donc qui éprouve Dieu. Or, dans la tradition kabbalistique, il y a une typologie des noms de Dieu. Dieu n'est jamais, comment dirais-je, accessible en tant que tel, en son essence. Il est appréhendé à partir de différents aspects. Et Elohim, c'est en quelque sorte, dans la Bible hébraïque et dans la Kabbale, le nom de Dieu qui désigne l'attribut de rigueur de la divinité. Donc, d'une certaine manière, Abraham est mis à l'épreuve sur sa vertu de charité, mais en lui exigeant d'être ouvert à la dimension de la rigueur. Et c'est ça la rencontre entre la charité et le din qui est représenté par Isaac. Quant à Jacob, qui est le fils de Isaac, en fait, il représente la synthèse des valeurs, c'est-à-dire la synthèse des valeurs incarnées par ses prédécesseurs, son père et son grand-père. Donc, ce n'est pas Isaac qui est conduit au sacrifice en tant que tel, mais à l'épreuve qui consiste à être prêt au sacrifice éventuel. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit propos et je vous remercie de votre attention.
Merci, Georges Elia. On aura le temps de revenir vers toi pour les questions, enfin entre vous déjà, puis pour les questions, bien sûr. Merci beaucoup. Père Éric, voilà. Donc pareil, hein, si tu peux prendre 2-3 minutes pour expliquer comment ça fonctionne dans le christianisme, exégèse herméneutique. Pas trop, parce que je pense que l'intérêt, c'est d'être sur le texte.
C'est d'être sur le texte. Ouais. Bien, ben, bonsoir à tous. Merci à Xavier de cette invitation. Je suis heureux de faire votre connaissance. J'aurais voulu retrouver plus chaleureusement, mais bon, c'est comme ça.
Là, surtout que la dernière conférence de l'année, normalement, c'est Champagne, mais là...
Ah ouais, c'est nouveau. Ah. Alors, il y a beaucoup de choses. Je suis toujours intéressé d'entendre Georges Elia et toujours intéressé d'entendre un frère juif commenter ce texte-là. Et je ne souhaite pas rentrer en polémique ni même en prolongement, mais j'espère que pour vous, il y aura plutôt des prolongements que des oppositions dans mon propos. Comment les croyants ou catholiques aujourd'hui, catholiques et protestants, je suis catholique, mais sur ce thème de l'exégèse, on n'a pas beaucoup, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de différence entre catholiques et protestants. On essaye d'avoir une lecture qui ne s'interdise aucune signification. Jean Vélia a dit des choses qui vont dans ce sens-là. Et il nous a été dit qu'à partir de 70, après la chute du temple par Titus, les sages en Israël vont construire la mise par écrit de la loi orale par un processus très lent qui a conduit au Talmud. Et au fond, en parallèle, les apôtres et les pères de l'Église vont faire la même chose. Ça va nous donner le Nouveau Testament. Georges Elia a parlé de l'importance du rilouche dans le renouvellement du sens. On n'est pas très très loin sur nouveau, mais on n'interprète pas tout à fait de la même façon. Et puis ensuite, les pères de l'Église, le Nouveau Testament étant clos, enfin, le texte le plus récent du Nouveau Testament, c'est la seconde lettre de Pierre, qui date de 115 à peu près. Et petit à petit, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire la liste des textes du Nouveau Testament, va se figer jusqu'à la dernière intervention, c'est en 325 au Concile de Nicée. Et puis, déjà, avec Irénée en 177 et beaucoup d'autres, l'interprétation à la fois de la Torah, des prophètes, des sages et des évangiles et des lettres, l'interprétation de tout ça va se mettre progressivement en forme. S'il faut citer un nom, c'est Origène, qui est quand même le père de l'exégèse chrétienne, avec des études magistrales qui ont été faites au XXe siècle par Henri de Lubac, notamment un livre qui s'appelle « Histoire et esprit » pour redécouvrir le fonctionnement de cette exégèse originelle d'une certaine façon. Et les travaux d'Henri de Lubac au XXe siècle arrivent à établir, à remettre en perspective, pourrait-on dire plutôt, que l'exégèse chrétienne a toujours été constituée des quatre sens de l'écriture. Là encore, il y a peut-être des échos que vous pouvez faire avec ce que vient de nous dire Georges Elia. Il y a le sens littéral. Qu'est-ce que dit le texte? Pourquoi il est écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et le sens littéral, c'est une proposition d'alliance. On divise la Bible en deux parties par rapport à un mot de testament. Testament, c'est une alliance valable par-delà la mort. Voilà. Et donc, comment le texte entre-t-il dans cette pédagogie d'un testament qui va par-delà la mort? Ensuite, un deuxième sens, après le sens littéral, c'est le sens christologique. Notre foi en Jésus ressuscité, le Verbe fait chair, nous fait reconnaître que du début à la fin, de la première page de la Genèse à la dernière de l'Apocalypse, on nous parle de Jésus. Voilà, c'est... Et chaque texte a sa manière, on verra avec l'exemple qui nous est donné d'étudier ce soir. Le troisième sens, c'est le sens moral. Donc là, quand on a touché au sens christologique, on touche à ce que la proposition de foi, hein, comment rentrer dans la foi en ce Dieu qui fait alliance avec nous. Et une fois qu'on a touché à cette foi, ben comment on va en vivre? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va se comporter? Donc, c'est ce qu'on appelle le sens moral. Et puis le sens analogique ou eschatologique, qu'est-ce que ça nous promet? Qu'est-ce que toute la Bible nous promet dans ce long itinéraire qui va du jardin de la Genèse à la Jérusalem céleste, hein, le deuxième chapitre de la Genèse jusqu'au 20e chapitre de l'Apocalypse? Il y a tout un parcours qui nous conduit du jardin de la Genèse à la Jérusalem céleste. Voilà, donc toute une dynamique eschatologique. Et donc ces quatre sens de l'Écriture font vraiment partie du patrimoine des pères de l'Église. Ils sont pères de l'Église parce qu'ils ont fondé justement cette tradition herméneutique, laquelle est rentrée en crise à l'époque de la modernité. Elle est rentrée en crise parce qu'elle ne savait pas répondre ou elle ne savait pas prendre à bras le corps l'aventure intellectuelle de son temps, quelles qu'en soient les raisons, les tours, les détours, peu importe. On n'a pas le loisir de rentrer dans plus de détails, mais il a fallu, par-delà cette crise, le Concile Vatican II, mon interprétation, c'est donc ce concile qui s'est tenu dans les années 1960, en quatre sessions, a pour principal fruit d'avoir remis la Bible entre les mains des croyants pour qu'ils puissent la lire quotidiennement, espérons-le, en tout cas fréquemment, assidûment, de manière intelligente et croyante. Je crois que c'est ça la clé, c'est de se dire, si nous croyons que c'est une parole de vérité, et une vérité pour la vie, nous n'avons pas à craindre la mise en concurrence avec la multiplicité des discours scientifiques. La vérité ne craint pas l'homme qui cherche la vérité, par définition. Et donc, le Concile Vatican II a essayé de définir, et on va mettre ça en pratique tout de suite, un certain nombre de lignes qui permettent aujourd'hui aux chrétiens de lire la Bible de manière savoureuse, ben, je l'espère le plus possible, mais toujours ne jamais opposer la foi et la raison. On a eu beaucoup de, dans la tradition catholique, on a eu beaucoup d'éléments de réflexion sur cette question-là. Et du coup, on s'interdit aucun type d'approche. Alors, Jean-Michel Poffet, qui était le directeur de l'école biblique, où vous irez donc au mois de juin, quand j'y étais étudiant, avait une manière de résumer l'histoire de l'exégèse contemporaine en disant, avec Henri, le père Lagrange, on a découvert le contexte, la langue, que voilà, tout ça, c'était que tout l'élément historique, géographique, archéologique et linguistique était nécessaire pour connaître la lettre, voilà, pour connaître le monde biblique. Ensuite, il y a eu un théologien protestant, Bultmann, qui lui a dit, si on ne peut pas comprendre le texte biblique sans comprendre la communauté qui le produit. La Bible est écrite par un peuple et pour un peuple. Et donc, il faut pouvoir prendre en compte la vie du peuple, la vie de la communauté qui produit et pour lequel est produit le texte. L'exégèse catholique a eu un peu de mal à se situer par rapport à ça, et s'en est sorti, et a finalement fait du chemin, hein, bien évidemment, et surtout a mis en avant l'auteur. Chaque texte est écrit, chaque livre est écrit par un auteur qui a une histoire, qui a un projet, qui a l'évangile de Marc n'est pas celui de Matthieu, parce que Marc et Matthieu ont des perspectives différentes. Et donc on arrive à le contexte, la communauté, l'auteur. Aujourd'hui, l'exégèse, qu'elle soit protestante ou catholique, dans le monde occidental, est très intéressé à tout ce qui est ce qu'on appelle la narratologie, c'est-à-dire comment le texte construit son lecteur, hein, comment un récit va permettre au lecteur d'avancer, de cheminer, comment l'auteur dialogue avec son lecteur, il façonne son lecteur. Voilà, comme le disait Jean-Michel Poffet, donc le directeur de l'école biblique, et on a fait le contexte, la communauté, l'auteur, le lecteur, maintenant on peut s'intéresser à Dieu, c'est-à-dire que c'est quand même la multiplicité des méthodes qui permet de passer de la lecture d'un texte à l'écoute d'une parole. Et c'est ça la démarche essentielle. Alors, des méthodes, et essayons de regarder un peu comment on met ça en œuvre dans notre histoire de la ligature d'Isaac, et de mettre tout de suite en œuvre une première indication du Concile Vatican II, qui me semble déterminante, et qu'on a beaucoup de mal à faire mettre en pratique de manière régulière et constante, celle à tenir compte du genre littéraire. Un poème n'est pas un récit, une lettre de Paul n'est pas un récit prophétique comme l'Apocalypse, le livre des Actes, qui s'apparente davantage à un roman comme on pouvait en connaître dans l'Antiquité, n'est pas le recueil des psaumes. Ah, voilà, le genre littéraire. Dans la mesure où un genre littéraire est une manière de se tenir devant le monde en vérité. Le rapport de police d'un accident ou le récit de l'accidenté à un membre de sa famille sont tous les deux vrais, mais en même temps, ils ne se lisent pas de la même façon. Voilà. Et donc, il s'agit de tenir compte de cela. Et la ligature d'Isaac, c'est un texte qui a pour fonction, qui prend en compte la dimension sacrificielle, on ne peut pas, bien évidemment pas l'effacer, mais qui interdit le sacrifice d'enfants. C'est un texte qui interdit le sacrifice d'enfants. C'est ça, une de ses spécificités. Et ça cadre bien avec le contexte biblique en général, où, en gros, il y a une chose dont Dieu a horreur, c'est qu'on lui offre des enfants en sacrifice. Jérémie, au chapitre 7, il dit « Je ne vous l'ai pas interdit, ça ne m'était pas monté au cœur. » C'est le père à ses enfants qui se dit « Quelle catastrophe, je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas faire ça, et pourtant vous l'aviez fait. » Et donc, dans ce contexte général, la spécificité de ce texte-là est d'interdire les sacrifices d'Isaac les sacrifices d'enfants et de fonder le culte. Le lieu de la montagne sur laquelle a lieu cette geste, c'est la montagne de Moria, et il nous est dit en 2 Chroniques 3, chapitre 3, verset 1, que le mont Moria, c'est à Jérusalem. C'est-à-dire que cette réinterprétation du texte et de l'épisode est d'une certaine manière, alors on touche de nouveau au genre littéraire, un récit qu'on appelle étiologique, c'est-à-dire qui offre l'histoire, qui légitime le culte qui va être célébré par la suite. Vous avez l'apparition du Seigneur avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent au patriarche Jacob au chapitre 28 de la Genèse. C'est un récit étiologique qui fonde le sanctuaire de Bethel, la maison de Dieu, même si c'est un sanctuaire qui a eu une place assez problématique dans l'histoire de l'Israël ancien. Et bien finalement, ce récit-là, qui interdit le sacrifice d'enfants, est aussi un récit qui raconte pourquoi il est légitime et même obligatoire d'offrir, de présenter le culte à Jérusalem, sur le mont Moria. Après ça, ben, il faut regarder le texte de près, et je voudrais souligner avec vous un certain nombre de tensions, non pas pour les résoudre, mais pour voir comment ça fonctionne. L'histoire est connue, vous avez pu la lire, et donc on se retrouve avec Abraham qui part sur un ordre divin avec son fils. Et au verset 5, une fois qu'ils ont découvert à quel endroit il fallait le faire, ce sacrifice, Abraham dit à ses serviteurs, « Demeure ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » C'est qui nous ? C'est qui nous ? Et il n'y a pas de réponse au texte. Mais ça montre que finalement, Abraham est dans l'incertitude. Et que peut-être la force d'Abraham, on nous dit à la fin que c'est un craignant Dieu, la force d'Abraham, c'est d'avoir accepté de tenir dans une certaine incertitude. Un tout petit peu plus loin, il y a donc Isaac qui commence à voir les affaires se profiler peut-être, et qui dit ben, « qu'est-ce qu'il en est ? On a le feu, on a le bois, mais on n'a pas l'agneau. » Et Abraham qui répond « C'est Dieu qui saura voir l'agneau. » Alors là, la BJ traduit par « pourvoira ». Littéralement, c'est bien « saura voir ». Tout le texte fonctionne autour de la racine « voir », puisque « Moria » peut se décliner, se conjuguer autour de ce verbe « voir ». Il s'agit de voir Dieu, ou plutôt de se faire voir de lui et de savoir qu'il voit. Il y a tout un jeu autour de ça. Autre petite ambiguïté, l'ange intervient, il retient la main d'Abraham, donc tout ça, ça va bien, ouf, ça se dénoue quand même. Mais au verset 15, l'ange du Seigneur appela une seconde fois. Une seconde fois. Alors, il y avait bien une première fois où il est intervenu au verset 11. Et du coup, quel est le statut de la parole qui a été prononcée au verset 1 ? Alors, ce n'est pas l'ange du Seigneur, c'est Dieu qui éprouva Abraham. C'est Dieu lui-même qui a appelé Abraham. Est-ce qu'on peut faire vraiment une différence entre Dieu et l'ange ? En tout cas, il y a deux fois l'ange, et puis au début, il y a le statut, une interrogation sur quel est le statut de cette parole au début, de cette parole qui met à l'épreuve. Moi, j'ai bien aimé ce que Georges Elia nous a dit, il s'agit de pouvoir fournir la preuve. Je le dis, j'espère ne pas contredire Georges Elia en disant ça, l'épreuve c'est un espace où on va pouvoir éprouver le recept d'Abraham, la charité, la fidélité aussi je crois, hein, en hébreu, ça signifie un peu ça. Et donc, la parole divine a mis le patriarche dans cette situation d'éprouver l'incertitude. Il ne sait pas où le conduit cette parole. Et pourtant, il ne va pas faire demi-tour. Il va aller jusqu'au bout, sachant que c'est Dieu lui-même qui va lever l'incertitude de cette épreuve. C'est l'intervention de Dieu qui lève l'épreuve elle-même, à la fois parce que Abraham s'y est engagé, mais au terme, il laisse Dieu lui-même intervenir et lever l'obscurité qui peut y avoir. Finalement, Abraham va immoler un bélier, c'est-à-dire un symbole de paternité. Il voulait pouvoir offrir un fils à Dieu, et c'est Dieu qui lui demande d'offrir sa paternité, c'est Dieu qui lui donne le fils, définitivement. Alors, on pourrait continuer sur le sens littéral. Si je peux vous donner des éléments de sens un peu chrétiens, comment ça a été relu dans la tradition chrétienne, il y a un texte dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11 qui dit « Si Abraham a été capable de tenir l'épreuve, c'est parce qu'il savait que son fils lui serait redonné par une forme de résurrection. » Un anachronisme total et absolu. C'est bien plutôt pour dire à vous qui croyez en la résurrection de Jésus, il vous est donné la force qui va vous permettre de vivre ce que le patriarche a vécu. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt à rebours. Sinon, je vous ai dit qu'Origène était le père de l'exégèse chrétienne. Du coup, j'ai sorti un petit texte du commentaire d'Origène sur la Genèse, où il s'interroge sur le sens de « Dieu saura voir, Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste ». Je suis frappé par cette réponse d'Abraham, à la fois exacte et prudente. Je ne sais ce qu'il voyait en esprit. On tient compte de l'obscurité dans laquelle Abraham se tient. En effet, il ne s'agit pas du présent, mais de l'avenir, quand il dit « Dieu saura bien voir l'agneau ». À son fils qui interroge sur le présent, il répond en disant « l'avenir ». C'est le Seigneur lui-même qui devait trouver l'agneau dans la personne du Christ. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez typique de cette lecture christologique. On va identifier l'agneau avec le Christ. Dans l'évangile de Jean, le Christ est présenté par saint Jean comme étant l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Et donc là, le texte va être lu avec cette clé-là. Ça me semble important. Voilà pour ce sens christologique. Le sens moral, on l'a déjà évoqué avec l'idée de trouver justement dans notre espérance de la résurrection la force pour tenir l'épreuve comme le patriarche. Et puis, je pense que ce texte est fondamentalement, pour conclure, une catéchèse sur nos idolâtries. Quelle est cette parole qui demande à Abraham d'offrir ce que Dieu avait pourtant donné ? Isaac est quand même bien le fils donné, déjà. Eh bien, la force d'Abraham, c'est d'avoir accepté que Dieu ne soit pas enfermé dans l'image qu'il se fait de lui. Israël a été aux prises avec des peuples qui pouvaient pratiquer, historiquement c'est assez compliqué à établir, mais avec des peuples qui pouvaient pratiquer les sacrifices d'enfants. Et donc une image de Dieu, c'est un Dieu qui réclame ce qu'il y a de plus beau. Eh bien Abraham, la foi d'Abraham, comme on dit souvent, la foi d'Abraham, ce n'est pas d'avoir levé le couteau sur son fils, c'est d'avoir posé le couteau. Parce que la foi d'Abraham, c'est d'avoir accepté que Dieu ne soit pas, que Dieu ne corresponde pas à l'image qui se faisait de lui. Et donc l'itinéraire de toute la Bible, c'est de conduire son lecteur à ce qu'il dépose ses idoles dépose les images qu'il a plaquées sur le nom trois fois saint pour que Dieu se révèle tel qu'il est, progressivement, peu à peu, dans un itinéraire qui va par-delà la mort et jusqu'à une vie, puisqu'il y a dans la lecture chrétienne une préfiguration de résurrection qui est déjà présente dans cette histoire. Voilà, je vous remercie et puis ben, j'espère. J'attends la suite avec intérêt à propos de Tariq et puis notre débat.
Merci beaucoup, Père Éric. Tariq, je ne te retrouve plus.
Je suis là.
Voilà. Donc, je te mets en vignette là, qu'on te voit.
Ok.
Ben, quand tu veux, Tariq. Hein.
Alors, effectivement, tout d'abord, quelques éléments pour comprendre, un petit démystifier ce premier texte fondateur de l'islam qui est le Coran, qui est le premier texte de droit également, la première source. Déjà au niveau de son contenu, de son commentaire, de son interprétation, il faut distinguer la lecture méditative de la lecture interprétative, c'est-à-dire de droit, ce qu'on appelle ihkam. La lecture méditative, évidemment, est donnée à tout le monde. Tout le monde peut lire le Coran, hein, comme n'importe quel texte fondateur de nos religions monothéistes. Donc, comme texte sacré, comme verbe de Dieu, comme expression du sacré, tout le monde peut le lire, peut méditer, peut s'abreuver de ses lumières. Mais après, quand on veut l'interpréter, le comprendre, le commenter et surtout en tirer des jugements, entre guillemets jugements, des statuts, là, c'est tout un autre domaine. C'est ce qu'on appelle les exégèses tefassir, et on a trois niveaux donc, de ces exégèses, de cette interprétation. Un niveau qu'on appelle ma'tour, c'est-à-dire expliquer le Coran, expliquer le texte scripturaire par le texte scripturaire, c'est-à-dire expliquer le Coran par le Coran, des versets pouvant expliquer d'autres, ou expliquer le Coran par la tradition, qui est prophétique, la deuxième source donc, de l'islam. C'est ce qu'on appelle l'explication du texte par le texte, l'explication ou le commentaire du texte par le texte. Ça, c'est une première grille de lecture, un premier comportement avec le texte sacré. Deuxième grille, deuxième niveau d'interprétation, c'est ce qu'on appelle al-ma'qul, c'est-à-dire l'explication du texte par la raison, mais la raison évidemment cadrée, encore une fois, et non pas une raison passionnelle, une raison qui instrumentalise le texte pour des fins terrestres, non. Et évidemment, une troisième et dernière lecture qui ne saurait être isolée des deux premières, c'est Ishari, c'est-à-dire la métaphore, c'est-à-dire la lecture spirituelle du Coran. On trouve beaucoup d'acteurs, beaucoup d'exégèses, des anciens comme ceux des contemporains, qui, après avoir fait l'interprétation d'un verset du Coran par le premier niveau, puis ensuite par le deuxième niveau, s'attaque au troisième niveau. On le trouve par exemple chez un auteur contemporain du 19e siècle comme Ibn Ajib, dans son Bahr al-Madi, dans son océan sans limite, dans l'interprétation du Coran. Donc effectivement, ces trois niveaux ne s'opposent pas, mais se complètent, puisque pour l'être humain à qui est adressé ce texte sacré, il y a toujours cette composante de la raison intellectuelle, cette composante, je dirais, parfois littéraliste, et cette composante du cœur, c'est-à-dire spirituelle. Donc, ces trois composantes, ces trois niveaux de lecture, de grille de lecture du texte sacré, se complètent et ne s'opposent pas. Maintenant, concernant le texte en lui-même, évidemment, il est très dangereux de prendre un verset sans connaître son contexte, sans connaître ses sens, sans connaître s'il est abrogé ou abrogeant, s'il est spécifique à une situation ou généralisé, s'il est lié à un contexte bien particulier, comme par exemple le contexte d'une sourate 9 qui parle d'un contexte d'hostilité qui ne peut pas être généralisé, ou d'un texte méditatif qui nous parle de la beauté de la création. Et dans ce cadre-là se situent tous les versets mécois des 13 premières années de la révélation. Et dans le cadre législatif, c'est les 10 dernières années, c'est-à-dire les versets qui sont révélés à Médine. Donc, dimension de la beauté, dimension méditative, mais également dimension législative, dimension du droit, de l'organisation de la société, notamment à partir de l'établissement du dernier messager à Médine. Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on peut dire en quelques minutes en introduction de l'exégèse et de toute sa richesse qui continue à nous émerveiller jusqu'à maintenant, parce que c'est évidemment un océan sans rivage. Du moment qu'on respecte évidemment les normes, les cadres, d'abord canoniques, parce qu'il y a un cadre canonique, et ensuite des figures de style de la langue arabe, qui est quand même une langue assez complexe, assez profonde, mais admettant, qui admet évidemment de la parabole, de la métaphore et de l'allusion. Richard. Ensuite, par rapport au verset qu'on va étudier brièvement aujourd'hui, à travers les trois niveaux, ou au moins deux niveaux en tout cas, avec vous. Donc c'est la sourate 37, les rangées, hein, la Safat, sourate 37. Je conseille deux traductions du Coran, c'est soit celle de Dominique Penaud qui, à mon sens, est très simpliste, donc facile à suivre, ou sinon celle de Jacques Berck, plus intellectuel, plus académique, et qui a l'avantage de garder, on va dire, la beauté du texte original. Bien que traduire, c'est toujours trahir un peu. Donc, la sourate 37, à partir du verset 99, où cette grande figure d'Abraham, Ibrahim en arabe, est encore citée. Ce n'est pas la première fois qu'elle est citée, elle a été citée plusieurs fois. Abraham est cité dans le Coran comme étant l'ami de Dieu, Khalil, comme étant également Umma, c'est-à-dire à lui seul représente une toute communauté, une humanité. Voilà. Et Abraham, le Coran cite également les épreuves qu'il a subies, d'abord l'épreuve du doute, face à cette question du cosmos, ensuite l'épreuve de l'hostilité de son peuple, de l'hostilité de sa proche famille, des persécutions, il fut jeté en enfer, il a continué à avoir cette certitude donnée par Dieu finalement, grâce à ce voyage initiatique qu'il a eu à travers le cosmos quand il a médité dans la création de la lune, des astres et puis ensuite du soleil, pour arriver à cette élévation spirituelle qui lui a valu d'être l'ami intime de Dieu, Khalil. Très important aussi, Ibrahim, ici on cite qu'il est dans la continuité de Nuh, min shi'atihi la Ibrahim, et qu'il est venu à Dieu avec un cœur saint. Et le Coran cite qu'il est à l'origine d'un nom, qui est muslimine, ou semakul muslimine, musulman, qui veut dire soumis tout simplement. Et on va voir dans ce petit récit du sacrifice ou du non-sacrifice, appelons-le comme on veut, l'essentiel c'est le contenu, on va voir comment justement on en est arrivé à cette soumission parfaite à Dieu. C'est pour ça que le mot musulman, muslimine, permet de refléter cette question de soumission, muslimine. Donc, tout d'abord, il fait son émigration de la terre d'hostilité vers une autre terre où Dieu va l'installer. Il a complètement confiance en Dieu. Il arrive à un certain âge où normalement, je dis normalement, c'est-à-dire scientifiquement, on désespère d'avoir des enfants. Et Dieu lui donne quand même un enfant avec Hajar. Et le Coran ne nomme pas, ça c'est très important, ne nomme pas le sacrifié. Il dit simplement, il donne des qualités à ce sacrifié, à ce fils, sans le nommer. Ce sont les interprètes après qui vont diverger sur l'identité de ce fils. Est-ce que c'est Ismaïl? Est-ce que c'est Ishaq? N'importe. Moi, personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la sagesse et l'esprit de ce récit. Alors, évidemment, il dit qu'il a prié Dieu pour avoir un fils sage, un fils magnanime, un fils d'une qualité spirituelle éminente, et c'est ce qui va arriver à un moment où il avait désespéré d'avoir des enfants, physiquement parlant, scientifiquement parlant. Et l'incompréhension, c'est quand? C'est quand Dieu va lui ordonner, à travers un songe, de sacrifier ce fils. Logiquement, ça ne se comprend pas. Pour la simple et bonne raison que Dieu lui avait promis une umma, une communauté nombreuse, et que physiquement, scientifiquement, logiquement, s'il interrompt sa filiation avec le sacrifice de ce fils unique qu'il a eu, parce qu'il n'avait pas encore le deuxième, eh bien, ça veut dire que c'est la fin pour lui de cette promesse divine. Or, ce n'est pas, il ne peut pas finalement se résoudre à cette fin tragique finalement de son histoire. Donc, il a en songe ce sacrifice et Dieu nous dit qu'il va quand même partager ce songe, cette révélation de Dieu, cet ordre, cette injonction divine avec son fils, avec le premier intéressé. Il lui dit « Inni arafil menami anni adbahok fanzur ma datara »« Regarde ce que tu penses, vois ce que tu penses, je te demande ton avis. » Et le fils, le père lui demande un délai de réflexion, le fils ne veut pas réfléchir. Il dit « Abati fa'al ma tumar » c'est-à-dire « Oh, mon papounet, abati » c'est un mot pour parler à son père de la façon la plus affective possible, la plus respectueuse possible, en lui disant « Oh, mon cher père, fais ce que tu as, ce que Dieu t'a ordonné. Il fait al-matouma, fais ce qu'on t'a ordonné. » Donc le fils n'a pas fléchi non plus, n'a pas douté. Et la mère également, cette pauvre mère, qu'il ne faut pas oublier bien sûr, parce que c'est sa chair, et donc elle aussi, elle a subi cette épreuve. Alors les interprètes divergent sur l'intensité de cette épreuve et qui a vraiment subi de plein fouet cette épreuve. Est-ce que c'est Abraham lui-même, en lui ordonnant de sacrifier la chair de sa chair, de sacrifier son seul espoir, entre guillemets, au moment des faits? Est-ce que c'est son fils sur qui va s'appliquer cet ordre qui semble évidemment inhumain, atroce, illogique? Ou bien c'est cette maman? Et on connaît toute l'affection, tout l'amour qu'éprouve une maman pour son fils. Eh bien, je dirais, pour trancher, c'est que c'est une épreuve qui est partagée par cette famille. La preuve, c'est que les interprètes nous disent que Satan est venu sous la forme d'un être humain pour essayer de, entre guillemets, d'insuffler à cette famille bénie, Ahlul Bayt, à cette famille purifiée, de ne pas se soumettre à cet ordre. Et ils ont commencé à lui jeter des petites pierres, d'où le fameux rite de lapidation des trois stèles qu'on a dans le grand pèlerinage à la Mecque. Ensuite, évidemment, le fils, dans ce qui est interprétation, il a demandé à son père tout d'abord de ligoter, de l'attacher pour qu'il ne puisse pas être affaibli devant la vue du sang ou devant la vue du couteau. Ensuite, nous dit encore une fois les interprètes, le sacrifié va dire à son père « Non, je veux faire preuve de courage, donc détache-moi. » Et quelques interprètes nous disent aussi un élément que je trouve subtil et précieux à mettre en avant, c'est que le pourquoi de ce sacrifice, ou le pourquoi de cet ordre, entre guillemets, cette injonction divine qui paraît à premier abord atroce, illogique et pas du tout dans le sens de la miséricorde divine, à premier abord, je dis. Ils disent qu'il avait vu ce fils sur un beau cheval, il a été, entre guillemets, attaché à ce fils, à ce magnifique fils qui atteint un âge où il est plus utile C'est-à-dire, il est beaucoup plus utile. Il a atteint un âge où, effectivement, il a dépassé toute la phase où il est encore dépendant de ses parents. Là, il est indépendant de ses parents. Il est en âge d'être utile à ses parents. Et là, hop, on veut le prendre. Donc, on dit que Dieu a vu dans le cœur d'Abraham cette attache ou cet attachement à autre que lui. Et il voulait l'éprouver, le tester, et lui donner une leçon magnifique de détachement, d'ascétisme, pour justement ne voir que Dieu, pour qu'il puisse anéantir son égo, anéantir tout autre que Dieu, toute idole en dehors de Dieu, pour ne voir, n'adorer et ne s'orienter que vers son Seigneur Dieu, Allah. Mais c'est ce qui va arriver qui est assez intéressant dans l'histoire, c'est que justement, nous dit le Coran, quand ils vont se mettre à exécuter l'ordre divin, le couteau va passer sur la gorge du sacrifié, du fils. Mais malgré cela, le couteau, par un miracle divin, va perdre sa fonction de couper. Ce qui veut dire qu'Abraham ici, c'est pour ça que je dis, on peut l'appeler le sacrifié comme on peut appeler le non-sacrifice aussi. Ici, on l'appelle le sacrifié parce qu'Abraham a sacrifié, a vraiment exécuté l'acte de couper sur la gorge de son propre fils pour montrer qu'il est allé vraiment jusqu'au bout de sa soumission, jusqu'au bout de son obéissance, jusqu'au bout de son détachement, jusqu'au bout de son abnégation, jusqu'au bout de cette mort de tous ses appétits et de tout son ego et de toute sa forme, son enveloppe charnelle, au point de mettre à exécution cet ordre, de se soumettre parfaitement. Et c'est là où, justement, la lumière, c'est là où le Medet, ce qu'on appelle le Medet, l'épiphanie, c'est là où l'ange va arriver avec cette substitution. Et on dit à Ibrahim, « Laqad saddaqta ru'ya, tu as réussi, tu as été pleinement soumis, tu es l'élu de Dieu. Voilà la fin de l'épreuve et voici le vrai sacrifice que tu dois donner. » Et c'est ce qui va initier ce qu'on appelle la fête du sacrifice chez les musulmans, qui couronne le grand pèlerinage à la Mecque, et qui est aussi une fête qui sera à peu près 3 jours, et qui est aussi une fête qui est générale dans tout le monde musulman, sunnite comme chiite, de l'est à l'ouest, du nord au sud, qui commémore, qui perpétue ce sacrifice abrahamique de son fils. Et c'est une tradition maintenant, chaque 10 de Dhul Hijjah, le dernier mois sacré du calendrier lunaire, ça s'appelle Eid al-Adha, la fête du sacrifice, qui va rappeler ce fameux sacrifice d'Abraham qui a été fait avec abnégation, mais qui spirituellement également met en valeur ce devoir finalement d'éducation spirituelle du grand jihad pour nous détacher de nos appétits bestiaux, pour tuer notre âme égotique, notre âme charnelle, au profit d'une âme pacifiée, d'une âme qui va tendre vers la lumière, qui va tendre vers l'esprit. Et c'est en quelque sens aussi la sagesse du sacrifice d'Abraham, quel que soit le nom du sacrifié. Et l'intéressant dans cette histoire, c'est d'y voir toutes les conséquences de ce sacrifice et tout le secret derrière ce sacrifice qui a permis à cette famille bénie d'être encore une fois élue. Et pour terminer, l'ultime récompense d'Abraham à partir du moment où il s'est exécuté, où il a vraiment sacrifié son fils, parce que c'est simplement le divin qui n'a pas permis au couteau de couper, mais sinon il a vraiment coupé, il aurait finalement vraiment coupé, il lui donne « Comme il s'est détaché, il a entre guillemets donné son fils, Dieu lui annonce la bonne nouvelle, « Basharnahu » en annonçant à Sarah la naissance du deuxième fils. Et donc, c'est comme une espèce de dénouement heureux de cette histoire pour lui dire, ne t'inquiète pas, tu t'es inquiété au départ parce que tu as pensé à un moment que c'était la fin de ta filiation, la fin de ta descendance, mais non, ça ne fait que commencer parce que tu auras ce deuxième fils, À partir du moment que où tu as sacrifié ce premier fils, tu auras ce deuxième fils, et de ce deuxième fils naîtra aussi une grande communauté qui va rivaliser avec la communauté du premier fils. Et donc, ça va, entre guillemets, faire en sorte que, justement, on aurait cette communauté spirituelle très vaste qu'on t'avait promis par rapport à laquelle tu as été envoyé et que tu es le père ou le patriarche ou celui qui a été à l'origine de cette soumission finalement. Je vous remercie, je reviendrai sur les subtilités s'il y a des questions.